Dans l'abîme du temps, par Howard Phillips Lovecraft. Après 22 ans de cauchemars et d'effroi, soutenus par la seule conviction désespérée que certaines impressions sont d'origine imaginaire, je me refuse à garantir la véracité de ce que je crois avoir découvert en Australie occidentale dans la nuit du 17 au 18 juillet 1935. On peut espérer que mon aventure fut, peut-être en partie ou entièrement, une hallucination. À cela, en effet, il y avait de nombreuses raisons. Et pourtant, le réalisme en était si atroce que parfois tout espoir me paraît impossible. Si la chose s'est produite, alors l'homme doit être préparé à accepter, sur l'univers et sur la place que lui-même occupe dans le tourbillon du temps, des idées dont le plus simple énoncé est paralysant. Il faut aussi le mettre en garde contre un danger latent, spécifique, qui, même s'il n'engloutit jamais la race humaine tout entière, peut infliger aux plus aventureux des horreurs monstrueuses et imprévisibles. C'est pour cette dernière raison que je réclame de toute la force de mon être l'abandon définitif de toute tentative d'exhumer ces fragments de mystérieuse maçonnerie primitive que mon expédition se proposait d'étudier. Si l'on admet que j'étais sain d'esprit et bien éveillé, mon expérience cette nuit-là fut telle qu'aucun homme n'en a jamais connu. Ce fut en outre une effroyable confirmation de tout ce que j'avais tenté de rejeter comme autant de fables et de rêves. Dieu merci, il n'y a pas de preuves. Car dans ma terreur, j'ai perdu l'épouvantable objet qui, s'il avait été réel, étiré en effet de ce dangereux abîme, en eût été le signe irréfutable. J'étais seul quand j'ai découvert cette horreur, et jusqu'à présent je n'en ai parlé à personne. Je n'ai pas pu empêcher les autres de creuser dans sa direction, mais le hasard et les éboulements de sable leur ont toujours évité de la rencontrer. Il me faut aujourd'hui rédiger une déclaration définitive, non seulement pour mon équilibre mental, mais pour mettre en garde ceux qui me liront sérieusement. Ces pages, dont les premières sembleront connues aux lecteurs attentifs de la grande presse scientifique, sont écrites dans la cabine du bateau qui me ramène chez moi. Je les donnerai à mon fils, le professeur Wingate Peasley de l'université de Miskatonic, seul membre de ma famille qui me resta fidèle il y a des années après mon étrange amnésie et le mieux informé des faits essentiels de mon cas. Il est de tous les vivants le moins enclin à tourner en dérision ce que je vais raconter de cette nuit horrible. Je ne l'ai pas informé de vive voix avant de m'embarquer, pensant qu'il préférait la révélation sous forme écrite. Lire et relire à loisir lui laissera une image plus convaincante que n'aurait pu le faire le trouble de mes propos. Il fera de ce récit ce que bon lui semblera, le montrant avec les commentaires appropriés dans tous les milieux où il pourrait être utile. C'est à l'intention de ces lecteurs mal instruits des premières phases de mon cas que je vais faire précéder la révélation elle-même d'un résumé assez détaillé de ses antécédents. Je m'appelle Nathaniel Wingate Peasley, et ceux qui se rappellent les récits des journaux de la génération précédente ou les correspondances et articles des revues de psychologie d'il y a 6 ou 7 ans sauront qui je suis et ce que je suis. La presse était pleine de circonstances de mon étonnante amnésie de 1908 à 1913, insistant sur les traditions d'horreur, de folie et de sorcellerie qui hantent la vieille ville du Massachusetts où je résidais, comme aujourd'hui je le fais. Je tiens encore à faire savoir qu'il n'est rien de dément ou de malfaisant dans mon hérédité et ma jeunesse. C'est un fait extrêmement important si l'on songe à l'ombre qui s'est abattue si brusquement sur moi, venant de sources extérieures. Il se peut que des siècles de noire méditation aient doté Arkham, aux ruines peuplées de murmures, d'une particulière vulnérabilité à de telles ombres, bien que cela même semble douteux à la lumière d'autres cas que j'ai pu étudier. Mais le point essentiel est que mes ancêtres et mon milieu sont absolument normaux, ce qui est venu d'ailleurs, d'où j'hésite maintenant encore à l'affirmer. Je suis le fils de Jonathan et Dana Wingate Peasley, tous deux de vieilles familles saines d'Averhill. Je suis né et j'ai grandi à Averhill, dans l'antique demeure de Boardman Street près de Golden Hill, et je ne suis allé à Arkham que pour entrer à l'université de Miskatonic comme chargé de cours d'économie politique en 1895. Pendant les 13 années suivantes, ma vie s'écoula, douce et heureuse. J'épousai Alice Kizar d'Averhill en 1896, et mes trois enfants, Robert, Wingate et Anna, naquirent respectivement en 1898, 1900 et 1903. Je devins en 1898 maître de conférences et professeur titulaire en 1902. Je n'éprouvai à aucun moment le moindre intérêt pour l'occultisme ou la psychologie pathologique. C'est le jeudi 4 mai 1908 que survint l'étrange amnésie. Elle fut brutale et imprévue, bien que je m'en rendis compte plus tard de brefs miroitements quelques heures auparavant, visions chaotiques qui me troublèrent d'autant plus qu'elles étaient sans précédent, dussent avoir été des symptômes précurseurs. J'avais un fort mal de tête, et la bizarre impression tout aussi neuve pour moi que quelqu'un cherchait à s'emparer de mes pensées. La crise se produisit vers 10h20, tandis que je faisais un cours d'économie politique. Histoire et tendance actuelle de l'économie politique aux étudiants en troisième année et à quelques-uns de seconde. Je vis d'abord devant mes yeux des formes insolites et crus me trouver dans une salle singulière autre que la classe. Mes idées et mes propos divaguaient, loin de tout sujet, et les étudiants s'aperçurent que quelque chose clochait gravement. Puis je m'affaissai, inconscient sur mon siège, dans une hébétitude dont personne ne put me tirer. Mes facultés normales ne revinrent au grand jour qu'au bout de 5 ans, 4 mois et 13 jours. C'est naturellement des autres que j'appris ce qui suit. Je restai inconscient pendant 16h30, bien qu'on m'eût ramené chez moi au 27 Crane Street, où je reçus les soins médicaux les plus attentifs. Le 15 mai, à 3h du matin, mes yeux s'ouvrirent et je me mis à parler. Et bientôt, le médecin et ma famille furent épouvantés par mon expression et le ton de mes propos. Il était clair que je n'avais aucun souvenir de mon identité ni de mon passé, même si je m'efforçais, on ne sait pourquoi, de cacher cette ignorance. Mes yeux fixaient étrangement les personnes de mon entourage, et les jeux de mes muscles faciaux n'avaient plus rien de familier. Mon langage même paraissait étrange et gauche comme celui d'un étranger. J'usais de mes organes vocaux avec embarras en tâtonnant, et mon élocution avait une curieuse raideur comme si j'avais étrangement appris l'anglais dans les livres. La prononciation était barbare tandis que la langue comportait à la fois des débris étonnants d'archaïsme et d'expressions d'une tournure absolument incompréhensible. Parmi ces dernières, l'une en particulier revint 20 ans plus tard de façon frappante, et plutôt effrayante, à l'esprit du plus jeune de mes médecins. Car à l'époque, cette expression commençait à se répandre, d'abord en Angleterre, puis aux États-Unis, et malgré sa complication et son incontestable nouveauté, elle reproduisait dans le moindre détail les mots déconcertants de l'étrange malade d'Arkham de 1908. La force physique revint aussitôt, mais il me fallut une rééducation singulièrement longue pour retrouver l'usage de mes mains, de mes jambes et de mon corps en général. À cause de cela et d'autres handicaps inhérents à ma perte de mémoire, je restais pendant un certain temps sous une étroite surveillance médicale. Quand je constatais l'échec de mes efforts pour dissimuler mon amnésie, je la reconnus franchement et me montrais avide de toutes sortes de renseignements. En fait, les médecins eurent l'impression que je cessais de m'intéresser à ma personnalité véritable dès lors que je vis ma perte de mémoire acceptée comme une chose naturelle. Ils remarquèrent que je m'efforçais surtout de posséder à fond certains points d'histoire et de science, d'art, de langage et de folklore, les uns terriblement abstrus et d'autres d'une simplicité puérile, qui très bizarrement parfois restaient exclus de ma conscience. En même temps, ils s'aperçurent que je possédais inexplicablement beaucoup de connaissances d'un genre nouveau et insoupçonné, que je souhaitais, semblait-il, cacher plutôt que révéler. Il m'arrivait par mégarde de faire allusion avec une assurance désinvolte à tels événements précis d'époques obscures au-delà de tout champ historique connu, quitte à tourner en plaisanterie la référence en voyant la surprise qu'elle suscitait. J'avais aussi une façon de parler du futur qui, 2 ou 3 fois, provoqua une véritable peur. Ces lueurs inquiétantes cessèrent bientôt de se manifester, mais certains observateurs attribuèrent leur disparition à une prudente hypocrisie de ma part, plutôt qu'à quelque déclin du savoir insolite qu'elle supposait. À la vérité, je semblais anormalement avide d'assimiler la façon de parler, les us et coutumes, les perspectives de l'époque autour de moi, comme si j'avais été un voyageur studieux venu d'une lointaine terre étrangère. Aussitôt qu'on m'y autorisa, je fréquentais à toute heure la bibliothèque de l'université, et j'entrepris sans tarder de préparer ces étonnants voyages, ces cours spéciaux dans les universités d'Amérique et d'Europe, qui donnèrent lieu à tant de commentaires pendant les années suivantes. À aucun moment je ne manquais de relations intellectuelles, car mon cas me valut une relative célébrité parmi les psychologues du moment. Je fus l'objet de conférences comme exemple typique de personnalité seconde, même si, ici ou là, j'embarrassais les conférenciers de quelques symptômes bizarres ou traces suspectes d'ironie soigneusement dissimulées. Mais de réelle bienveillance, je n'en rencontrais guère. Quelque chose dans mon aspect et mes propos semblait éveiller chez tous ceux que je rencontrais des vagues de crainte et de répugnance, comme si j'avais été un être infiniment éloigné de tout ce qui est normal et sain. Cette idée d'une horreur obscure et secrète liée aux abîmes incalculables d'on ne sait quelle distance était curieusement répandue et tenace. Ma propre famille ne fit pas exception. Dès l'instant de mon étrange réveil, ma femme m'avait considéré avec effroi et un dégoût extrême, jurant que j'étais un parfait étranger usurpant le corps de son mari. En 1910, elle obtint le divorce et ne consentit jamais à me revoir, même après mon retour à mon état normal en 1913. Ces sentiments furent partagés par mon fils aîné et ma petite fille, que je n'ai jamais revus ni l'un ni l'autre. Seul mon second fils, Wingate, parut capable de surmonter la terreur et la répulsion suscitées par ma métamorphose. Lui aussi sentait bien que j'étais un étranger, mais quoiqu'il n'eût pas plus de 8 ans, il croyait fermement au retour de mon véritable moi. Quand celui-ci revint en effet, il me rejoignit et les tribunaux le confièrent à ma garde. Au cours des années, il m'aida dans les études que je fus poussé à entreprendre, et aujourd'hui, à 35 ans, il est professeur de psychologie à Miskatonic. Et je ne suis pas surpris de l'horreur que j'inspirais, car, assurément, l'esprit, la voix et l'expression de l'être qui s'éveilla le 15 mai 1908 n'étaient pas ceux de Nathaniel Wingate Peaslee. Je n'essaierai pas de raconter toute ma vie de 1908 à 1913 car les lecteurs peuvent en glaner les traits essentiels, ainsi que j'ai dû abondamment le faire moi-même dans les dossiers des vieux journaux et revues scientifiques. On me rendit l'usage de mes fonds et j'en usais sans hâte, sagement dans l'ensemble, à voyager et étudier dans divers centres du savoir. Mes voyages, cependant, furent surprenants à l'extrême, comportant de longues visites à des lieux écartés et déserts. En 1909, je passais un mois dans l'Himalaya, et en 1911, j'éveillais un curieux intérêt par une expédition à dos de chameau dans les déserts inconnus d'Arabie. Je n'ai jamais pu savoir ce qui s'était produit lors de ces explorations. Pendant l'été de 1912, je frétais un bateau pour naviguer dans l'Arctique, au nord du Spitzberg, et manifestais au retour une évidente déception. Plus tard cette année-là, je passais des semaines seul au-delà des limites de l'exploration passée ou ultérieure, dans l'immense réseau des cavernes calcaires de Virginie-Occidentale, labyrinthe ténébreux et si complexe qu'on n'a jamais pu seulement envisager de reconstituer mon parcours. Mes séjours dans les universités furent marqués par une rapidité d'assimilation incroyable, comme si la personnalité seconde possédait une intelligence considérablement supérieure à la mienne. J'ai découvert aussi que mon rythme de lecture et d'études solitaires était phénoménal. Il me suffisait de parcourir un livre, juste le temps de tourner les pages, pour en retenir tous les détails, tandis que mon habileté à interpréter en un instant des figures compliquées était proprement impressionnante. Il circula à plusieurs reprises des rumeurs presque alarmantes sur mon pouvoir d'influencer les pensées et les actes des autres, bien que j'en ai pris soin, semble-t-il, de réduire au minimum les manifestations de cette faculté. D'autres vilains bruits concernaient mes rapports intimes avec les chefs des groupes d'occultistes, et des érudits suspects de relations avec des bandes innommables d'odieux hiérophantes du monde ancien. Ces rumeurs, bien que non confirmées à l'époque, furent certainement encouragées parce qu'on savait de la teneur de mes lectures, car la consultation de livres rares dans les bibliothèques ne peut être gardée secrète. Des notes marginales restent la preuve tangible de mes recherches minutieuses dans des ouvrages tels que « Le culte des ghouls » du comte d'Erlet, « Des Vermis Mysteriis » de Ludwig Prin, Unausprechlichen Kulten de von Junst, les fragments conservés de l'énigmatique Livre d'Ebon et l'effroyable Necronomicon de l'arabe fou Abdul al-Azred. Et puis, il est indéniable que l'activité des cultes clandestins reçut une nouvelle néfaste impulsion à peu près au moment de mon étrange métamorphose. Pendant l'été de 1913, je commençais à donner des signes d'ennui, de relâchement, et laissait entendre dans mon entourage qu'on pouvait s'attendre à me voir bientôt changer. J'évoquais le retour de mes souvenirs de ma première vie, mais la plupart de mes auditeurs mirent en doute ma bonne foi, car en tout ce que je citais était fortuit et eût pu être tiré de mes vieux papiers personnels. Vers la mi-août, je regagnais Arkham et rouvris ma maison de Crane Street, depuis longtemps fermée. J'y installais une machine des plus curieuses, construite en pièces détachées par différents fabricants de matériel scientifique en Europe et en Amérique, et je la dissimulais soigneusement au regard de toute personne assez intelligente pour en comprendre la composition. Ceux qui la virent, un ouvrier, une domestique et la nouvelle gouvernante, décrivirent un bizarre assemblage de tiges, de roues, de miroirs, ne mesurant pas plus de 2 pieds de haut et 1 de large et 1 d'épaisseur. Le miroir central était rond et convexe. Tout cela est confirmé par les fabricants de pièces que l'on a pu joindre. Le soir du vendredi 26 septembre, je donnai congé à la gouvernante et à la femme de chambre jusqu'au lendemain midi. Des lumières brillèrent dans la maison tard dans la nuit, et un homme maigre, brun, l'allure singulière d'un étranger, arriva en automobile. Il était à peu près 1h du matin quand les lumières s'éteignirent. À 2h15, un agent de police remarqua la demeure dans l'obscurité, mais la voiture de l'étranger était toujours garée le long du trottoir. À 4h, elle avait de toute évidence disparu. Ce fut à 6h qu'une voix hésitante, à l'accent étranger, demanda par téléphone au docteur Wilson de se rendre à mon domicile pour me tirer d'un bizarre évanouissement. Cet appel, une communication interurbaine, venait, comme on l'établit plus tard, d'une cabine publique à la gare du nord de Boston. Mais on ne retrouva jamais aucune trace du maigre étranger. En arrivant chez moi, le médecin me trouva au salon, sans connaissance, dans un fauteuil dont on avait approché une table. La surface polie de cette table portait des égratignures, à l'endroit où un lourd objet y avait été posé. La singulière machine était partie, et l'on n'entendit jamais plus parler d'elle. Sans aucun doute, l'étranger maigre et brun l'avait emporté. Dans la cheminée de la bibliothèque, un tas de cendres témoignait qu'on avait brûlé jusqu'au dernier bout de papier tout ce que j'avais écrit depuis le début de l'amnésie. Le docteur Wilson jugea ma respiration anormale, mais après une piqûre hypodermique, elle reprit sa régularité. Le matin du 27 septembre à 11h15, je m'agitais vigoureusement, et le masque jusqu'alors figé de mon visage donna ses premiers signes d'animation. Le docteur Wilson remarqua que l'expression n'était pas celle de ma personnalité seconde, mais ressemblait beaucoup à celle de mon moi normal. Vers 11h30, je marmonnais quelques syllabes très bizarres qui ne semblaient appartenir à aucun langage humain. J'avais l'air aussi de lutter contre quelque chose. Puis, à midi passé, je me mis à murmurer en anglais. Parmi les économistes orthodoxes de cette période, Jevons représente plus particulièrement la tendance dominante à établir des corrélations scientifiques. Son effort pour relier le cycle commercial de la prospérité et du marasme au cycle physique et des tâches solaires constitue peut-être le point culminant de... Nathaniel Wingate Peasley était revenu. Et pour cet esprit, selon son estimation du temps, c'était toujours ce jeudi matin de 1908 où la classe d'économie politique levait ses regards attentifs vers le vieux bureau sur l'estrade. Ma réadaptation à la vie normale fut pénible et difficile. 5 années perdues suscitent plus de complications qu'on ne peut l'imaginer, et dans mon cas, il y avait 1000 choses à remettre en ordre. Ce que l'on apprit de mes faits et gestes depuis 1908 me surprit et m'inquiéta, mais je tâchais de considérer la question avec toute la philosophie dont j'étais capable. Enfin, ayant obtenu la garde de mon second fils, Wingate, je m'installai avec lui dans la maison de Crane Street, et je tentai de reprendre mon enseignement. Mon ancienne chaire m'avait été aimablement proposée par l'université. Je commençais mes cours avec le trimestre de février 1914 et les poursuivis une année entière. Je me rendis compte alors que mon aventure m'avait gravement ébranlé, bien que parfaitement sain d'esprit, je l'espérais en tout cas, et sans faille dans ma personnalité première, je n'avais plus la vitalité d'autrefois. Des rêves confus, des idées bizarres me hantaient sans cesse. Et quand le déclenchement de la guerre mondiale orienta mon esprit vers l'histoire, je m'aperçus que je me représentais les époques et les événements de la façon la plus étrange. Ma conception du temps, ma faculté de distinguer succession et simultanéité, semblait quelque peu changée. Je formais l'idée chimérique qu'en vivant à une époque donnée, on pouvait projeter son esprit à travers l'éternité pour connaître les siècles passés et futurs. La guerre me donna l'impression singulière de me rappeler quelques-unes des conséquences lointaines. comme si connaissant déjà son évolution, je pouvais les envisager après coup, à la lumière d'une information future. Tous ces pseudo-souvenirs s'accompagnaient d'une grande souffrance, et du sentiment qu'une barrière psychologique artificielle leur était opposée. Lorsque je me hasardais à évoquer tout cela autour de moi, je rencontrais des réactions différentes. Certains me regardèrent d'un air inquiet, mais chez les mathématiciens, on parla de nouveaux aspects de cette théorie de la relativité, alors réservée au cercle cultivé, qui devait plus tard devenir si célèbre. Le célèbre docteur Albert Einstein, disait-on, allait vite ramener le temps à l'état de simple dimension. Mais les rêves et les sensations étranges finirent par prendre sur moi une telle emprise que je dus abandonner mes cours en 1915. Ces troubles prenaient parfois une forme irritante. Je nourrissais l'idée persistante que mon amnésie avait servi quelque échange impie, que la personnalité seconde était en réalité une force imposée venant de l'inconnu et que ma propre personnalité avait subi une substitution. Je fus ainsi amené à de confuses et terrifiantes spéculations sur le sort de mon moi véritable pendant les années où un autre avait occupé mon corps. L'étonnant savoir et la conduite singulière de cet ancien occupant m'inquiétaient de plus en plus à mesure que j'apprenais de nouveaux détails par des rencontres, des journaux ou des magazines. Les bizarreries qui avaient déconcerté les autres paraissaient s'accorder terriblement avec un arrière-plan d'obscures connaissances embusquées dans les profondeurs de mon subconscient. Je me mis à étudier avec fièvre les moindres renseignements touchant les études et les voyages de cet autre pendant les années obscures. Tous mes tourments n'avaient pas ce degré d'abstraction. Il y avait les rêves qui semblaient gagner en vigueur et en réalisme. Sachant comment la plupart des gens le considéraient, j'en parlais rarement, sinon à mon fils ou à quelques psychologues dignes de confiance. Mais j'entrepris bientôt une étude scientifique d'autres cas pour savoir si de telles visions étaient ou non caractéristiques chez les victimes de l'amnésie. Mes résultats, obtenus avec l'aide de psychologues, d'historiens, d'anthropologues et de spécialistes expérimentés de la vie mentale, plus une recherche qui passait en revue tous les cas de dédoublement de personnalité, depuis l'époque des légendes de possession démoniaque jusqu'aux réalités médicales de notre temps, ces résultats donc m'apportèrent d'abord plus d'inquiétude que de réconfort. Je m'aperçus bientôt que mes rêves n'avaient, à vrai dire, aucun équivalent dans la masse formidable des cas d'amnésie authentique. Il restait néanmoins un tout petit nombre d'exemples dont le parallélisme avec ma propre existence m'intrigua et me bouleversa pendant des années. Certains étaient tirés d'un antique folklore, d'autres répertoriés dans les annales de la médecine. Une ou deux anecdotes dormaient enfouies dans les classiques historiques. Il semblait donc bien que si ma forme particulière de disgrâce était prodigieusement rare, des exemples s'en étaient pourtant présentés à de longs intervalles depuis le début des chroniques de l'humanité. Certains siècles en comptaient un, deux ou trois, d'autres aucun, ou du moins aucun dont on ait gardé le souvenir. C'était pour l'essentiel toujours la même chose. Une personne à l'esprit réfléchi et pénétrant se trouvait investie d'une étrange vitalité seconde, menant pendant un temps plus ou moins long une existence entièrement différente, caractérisée d'abord par une maladresse dans l'élocution et les mouvements, puis plus tard par l'acquisition systématique de connaissances scientifiques, historiques, artistiques et anthropologiques. Acquisition menée avec une ardeur fiévreuse et une faculté d'assimilation absolument anormale. Puis un brusque retour à sa conscience propre, désormais tourmentée de temps à autre par des rêves confus et inapaisables, suggérant par fragments d'effroyables souvenirs soigneusement effacés. L'étroite ressemblance de ces cauchemars avec les miens, jusqu'au moindre détail, ne laissait aucun doute dans mon esprit sur leur nature manifestement exemplaire. Un ou deux de ces cas s'entouraient d'un halo vague de sacrilège et de familiarité comme si je les avais déjà connus par quelque agent cosmique trop effroyable et hideux pour qu'on m'en soutienne la vue. Dans trois exemples, on mentionnait explicitement une mystérieuse machine comme celle que j'avais eue chez moi avant la seconde transformation. Ce qui m'inquiéta pendant mes recherches fut la fréquence assez importante des cas où un bref et fugitif aperçu des mêmes cauchemars avait affecté des personnes non atteintes d'amnésie caractérisée. Ces personnes étaient pour la plupart d'intelligence médiocre, ou moins encore, certaines si rudimentaires qu'on ne pouvait guère y voir les véhicules d'une érudition anormale ou d'acquisition mentale surnaturelle. Elles étaient animées une seconde par une force étrangère, puis en observaient un retour en arrière et l'incertaine réminiscence vite dissipée d'inhumaines horreurs. Il y avait eu au moins trois cas de ce genre au cours du dernier demi-siècle, dont un seulement 15 ans plus tôt. Quelque chose, issu d'un abîme insoupçonné de la nature, s'était-il aventuré en aveugle à travers le temps? Ces troubles atténués étaient dits de monstrueuses et sinistres expériences dont la nature et l'auteur échappaient à toute raison. Telles étaient quelques-unes des conjectures imprécises de mes heures les plus noires, chimères encouragées par le mythe que découvraient mes recherches. Car, je n'en doutais pas, certaines légendes persistantes d'une antiquité immémoriale, apparemment inconnue de certains amnésiques récents et de leurs médecins, donnaient une image frappante et terrible de perte de mémoire comme la mienne. Quant à la nature de rêves et des impressions qui devenaient si tumultueux, j'ose à peine en parler. Il sentait la folie, et je croyais parfois devenir vraiment fou. Était-ce là un genre d'hallucination propre aux anciens amnésiques? Les efforts du subconscient pour combler par de pseudo-souvenirs, vides déconcertants, pouvaient bien en effet donner lieu à de curieux caprices de l'imagination. Telle fut d'ailleurs, bien qu'une autre hypothèse du folklore me parut finalement plus convaincante, l'opinion de beaucoup des aliénistes qui m'aidèrent à étudier ces cas analogues et furent intrigués comme moi par les similitudes parfois observées. Ils ne qualifiaient pas cet état de folie véritable, mais le classaient plutôt parmi les troubles névrotiques. Ma démarche pour essayer de le circonscrire et de l'analyser, au lieu de chercher en vain à le rejeter et l'oublier, rencontra leur chaleureuse approbation par sa conformité aux meilleurs principes psychologiques. J'appréciais particulièrement l'avis des médecins qui m'avaient suivi quand j'étais habité par une autre personnalité. Mes premiers troubles ne furent pas d'ordre visuel, mais portés sur les questions plus abstraites dont j'ai parlé. Il y avait un sentiment de répugnance intense et inexplicable à l'égard de moi-même. Il me vint une peur étrange de voir ma propre silhouette, comme si mes regards allaient y découvrir quelque chose d'absolument inconnu et d'une inconcevable terreur. Quand je risquais enfin un regard sur moi et apercevais la forme humaine familière discrètement vêtue de gris ou de bleu, je ressentais toujours un curieux soulagement, mais avant d'en arriver là, il me fallait surmonter une terreur infinie. J'évitais les miroirs le plus possible et me faisais toujours raser chez le coiffeur. Il me fallut beaucoup de temps pour établir un lien entre ces sentiments de frustration et les visions passagères qui commençaient à se manifester. Le premier rapprochement de ce genre concerna la sensation bizarre d'une contrainte extérieure artificielle sur ma mémoire. Je compris que les images entrevues dont je faisais l'expérience avaient une signification profonde, terrible, et un redoutable rapport avec moi-même, mais qu'une influence délibérée m'empêchait de saisir ce sens et ce rapport. Vint ensuite cette bizarre conception du temps, et avec elle les efforts désespérés pour situer les fragments fugaces du rêve sur le plan chronologique et spatial. Les images elles-mêmes furent d'abord plus étranges qu'effrayantes. Il me semblait être dans une immense salle voûtée dont les hautes nervures de pierre se perdaient presque parmi les ombres au-dessus de ma tête. Quelle que soit l'époque et le lieu, le principe du cintre était aussi connu et fréquemment utilisé qu'au temps des Romains. Il y avait de colossales fenêtres rondes et élevées, des portes cintrées et des bureaux ou tables aussi hauts qu'une pièce ordinaire. De vastes étagères de bois noir couraient le long des murs, portant ce qui semblait des volumes de format gigantesque au dos marqué d'étranges hiéroglyphes. La pierre apparente présentait des sculptures singulières, toujours en symboles mathématiques curvilignes, et des inscriptions ciselées reproduisant les mêmes caractères que les énormes volumes. La sombre maçonnerie de granit était d'un type mégalithique monstrueux, des rangées de blocs au sommet convexe venant s'encastrer dans d'autres à la base concave qui reposaient sur eux. Il n'y avait pas de siège, mais le dessus des immenses tables était jonché de livres, de papiers et d'objets qui servaient sans doute à écrire. Jarres de métal violacées, bizarrement ornées, et baguettes à la pointe tachée. Si démesuré qu'il soit, je réussissais parfois à voir ces bureaux d'en haut. Sur quelques-uns, de grands globes de cristal lumineux en guise de lampe et d'énigmatiques machines faites de tubes et de verres et de tiges de métal. Les fenêtres vitrées étaient treillissées de solides barreaux. Sans oser approcher pour regarder au travers, je pouvais distinguer de l'endroit où j'étais les faîtes ondulantes d'une végétation singulière rappelant les fougères. Le sol était fait de lourdes dalles octogonales et l'on ne voyait ni tapis ni tenture. Plus tard, je me vis parcourir des galeries cyclopéennes de pierre et monter ou descendre des plans inclinés gigantesques de la même colossale maçonnerie. Il n'y avait aucun escalier et les couloirs ne mesuraient jamais moins de 30 pieds de large. Certaines des constructions que je traversais en flottant devaient s'élever à des milliers de pieds dans le ciel. Sous terre se succédaient plusieurs étages de noirs caveaux et de trappes jamais ouvertes, scellées de bandes métalliques et suggérant vaguement un péril extraordinaire. Je devais être prisonnier, et l'horreur menaçait partout où je jetais les yeux. Je sentais que le message de ces hiéroglyphes curvilinéaires qui me narguaient sur les murs aurait brisé mon âme si je n'avais pas été protégé par une bienheureuse ignorance. Plus tard encore, je vis en rêve des perspectives par les grandes fenêtres rondes, et du haut du titanesque toit plat au curieux jardin, ce large espace vide avec son haut parapet de pierre à festons, où menait le plus haut des plans inclinés. Des bâtiments géants, chacun dans son jardin, s'alignaient sur des lieux presque à perte de vue, le long des routes pavées d'au moins 200 pieds de large. Ils étaient très divers, mais mesuraient rarement moins de 500 pieds carrés ou 1000 pieds de haut. Beaucoup paraissaient sans limite, avec une façade de plusieurs milliers de pieds, tandis que certains s'élançaient à des hauteurs vertigineuses dans le ciel gris et brumeux. Faits pour l'essentiel de pierre ou de ciment, ils appartenaient généralement au curieux type de maçonnerie curviligne qui caractérisait l'immeuble où j'étais retenu. Les toits étaient plats, couverts de jardins, avec souvent des parapets à festons. Parfois des terrasses à plusieurs niveaux et de larges espaces dégagés parmi les jardins. Il y avait, dans ces grandes routes, comme un appel au mouvement, mais lors des premières visions, je ne sus pas analyser le détail de cette impression. Je vis en certains endroits d'énormes tours sombres de forme cylindrique qui dominaient de loin tous les autres édifices. Elles étaient vraisemblablement d'une espèce tout à fait exceptionnelle et présentaient les tiges d'une antiquité et d'un délabrement considérable. Bâties bizarrement de blocs de basalte taillés à angle droit, elles s'amincissaient progressivement jusqu'à leur sommet arrondi. On n'y voyait nulle part la moindre trace de fenêtre ou d'ouverture quelconque, si ce n'est de portes énormes. Je remarquais aussi quelques constructions plus basses, toutes cylindriques d'architecture primitive. Tout autour de ces monuments délirants de maçonnerie à l'équerre planait une inexplicable atmosphère de menace et de peur intense, comme en dégageaient les trappes scellées. Les jardins, omniprésents, étaient presque effrayants dans leur étrangeté, offrant des formes végétales bizarres et insolites qui se balançaient au-dessus de larges allées bordées de monolithes curieusement sculptés. Des espèces de fougères, surtout, d'une taille anormale, les unes vertes, d'autres d'une pâleur spectrale, fungoïde. Parmi elles se dressaient de grandes silhouettes fantomatiques comparables à des calamités dont les troncs semblables à des bambous atteignaient des hauteurs fabuleuses. Et encore des touffes de prodigieux cycas et des arbres ou arbustes baroques d'un vert sombre qui rappelaient les conifères. Les fleurs, petites, incolores et impossibles à identifier, s'épanouissaient en parterres géométriques ou librement dans la verdure. Dans quelques jardins, de la terrasse ou du toit, il en poussait de plus grandes et plus colorées, d'aspect presque répugnant, qui suggéraient une culture artificielle. Des plantes fongoïdes, de dimensions, de contours et de couleurs inconcevables, parsemaient le paysage selon les dessins qui révélaient une tradition horticole inconnue, mais bien établie. Dans les jardins plus vastes au niveau du sol, on discernait un certain souci de conserver les caprices de la nature, mais sur les toits, la sélection et l'art des jardins étaient plus manifestes. Le ciel était presque toujours pluvieux ou nuageux, et j'assistais parfois à des pluies torrentielles. De temps à autre, pourtant, on apercevait le soleil, qui semblait anormalement grand, et la lune dont les taches avaient quelque chose d'inhabituel que je n'ai jamais pu approfondir. Les nuits, très rares, où le ciel était assez clair, j'apercevais des constellations à peine reconnaissables, quelquefois proches des figures connues, mais jamais presque identiques. Et d'après les positions des quelques groupes que j'ai pu identifier, je conclus que je devais être dans l'hémisphère sud, près du tropique du Capricorne. L'horizon lointain était toujours embué et indistinct, mais je voyais aux abords de la ville de vastes jungles de fougères arborescentes inconnues, de calamités, de lépidodendrons ou de sigillaires, dont les frondaisons fantastiques ondulaient, narquoises, dans les vapeurs mouvantes. Par moments, s'esquissaient des mouvements dans le ciel, mais mes premières visions ne les précisèrent jamais. Pendant l'automne de 1914, je commençais à faire des rêves espacés où je flottais étrangement au-dessus de la cité et des régions environnantes. Je découvris des routes interminables à travers des forêts de végétaux effroyables, aux troncs tachetés, cannelés ou rayés, ou devant des villes aussi singulières que celles qui ne cessaient de m'obséder. Je vis de monstrueuses constructions de pierres noires ou irisées dans des percées ou des clairières où régnait un crépuscule perpétuel, et je parcourus de longues chaussées à travers des marécages si sombres que je distinguais à peine leur humide et imposante végétation. J'aperçus une fois une étendue sans bornes, jonchée de ruines basaltiques détruites par le temps, dont l'architecture rappelait les rares tours sans fenêtres au sommet arrondi de la ville obsédante. Et une fois, je vis la mer, étendue sans limite, vaporeuse, au-delà des colossales jetées de pierre d'une formidable cité de dômes et de voûtes. Des impressions de grandes ombres sans forme se déplaçaient au-dessus d'elle, et ici ou là, des jaillissements insolites venaient troubler la surface des eaux. Ainsi que je l'ai dit, ces images extravagantes ne prirent pas tout de suite leur caractère terrifiant. À coup sûr, beaucoup de gens ont eu des rêves, en eux-mêmes plus étranges, mêlant des fragments sans lien de vie quotidienne de choses vues ou lues, combinées sous les formes les plus surprenantes par les caprices incontrôlés du sommeil. Pendant un certain temps, ces visions me semblèrent naturelles, bien que je n'aie jamais été jusqu'alors un rêveur extravagant. Beaucoup d'obscures anomalies, me disais-je, venaient sans doute de sources banales trop nombreuses pour qu'on les identifie. D'autres reflétaient simplement une connaissance élémentaire des plantes et autres données du monde 150 millions d'années plus tôt, le monde de l'âge permien ou triassique. En quelques mois néanmoins, l'élément de terreur apparut avec une intensité graduelle. Et cela quand les rêves prirent infailliblement l'aspect de souvenirs et que mon esprit y découvrit un lien avec l'aggravation de mes inquiétudes d'ordre abstrait, le sentiment d'entrave à la mémoire, les singulières conceptions du temps, l'impression d'un détestable échange avec ma personnalité seconde de 1908 à 1913 et, beaucoup plus tard, l'inexplicable aversion à l'égard de moi-même. À mesure que certains détails précis surgissaient dans mes rêves, l'horreur y devenait mille fois pire, si bien qu'en octobre 1915, je compris qu'il me fallait agir. C'est alors que j'entrepris une étude approfondie d'autres cas d'amnésie et de vision, convaincu que je réussirais à objectiver mon problème ainsi et à me délivrer de son emprise émotionnelle. Cependant, comme je l'ai indiqué, le résultat fut d'abord presque exactement le contraire. Je fus absolument bouleversé d'apprendre que mes rêves avaient eu d'aussi exacts précédents, d'autant plus que certains témoignages étaient trop anciens pour qu'on pût supposer chez les sujets la moindre connaissance en géologie et, partant, la moindre idée des paysages primitifs. Bien plus, beaucoup de ces récits fournissaient des détails et des explications les plus atroces à propos des images des grands bâtiments et des jardins sauvages et du reste. Les visions par elles-mêmes et les impressions vagues étaient suffisamment horribles, mais ce que suggéraient ou affirmaient quelques autres rêveurs sentait la folie et le blasphème. Et le comble, c'était que ma propre pseudo-mémoire en était incitée à des rêves plus délirants et au pressentiment de proches révélations. Néanmoins, la plupart des médecins jugeaient ma démarche dans l'ensemble fort recommandable. J'étudiais à fond la psychologie. En suivant mon exemple, mon fils Wingate en fit autant, ce qui l'amena finalement à occuper sa chaire actuelle. En 1917 et 1918, je suivis des cours spéciaux à Miskatonic. Entre-temps, j'examinais inlassablement la documentation médicale, historique et anthropologique, voyageant jusqu'aux bibliothèques lointaines, osant enfin consulter, même si les livres abominables de l'antique tradition interdite, pour lesquels ma personnalité seconde avait manifesté un intérêt troublant. Certains de ces volumes étaient ceux-là même que j'avais étudiés pendant ma métamorphose, et je fus bouleversé d'y trouver des notes marginales et d'apparentes corrections du texte hideux, d'une écriture et dans des termes qui avaient quelque chose d'étrangement inhumain. La plupart étaient rédigés dans les langues respectives des différents ouvrages dont le lecteur semblait avoir une connaissance également parfaite, bien qu'académique. L'une pourtant, ajoutée au Unausprechlichen Kulten de von Jungst, était d'une inquiétante originalité. En hiéroglyphes curvilignes de la même encre que les corrections allemandes, elle ne suivait aucun modèle connu. Et ces hiéroglyphes étaient étroitement et sans aucun doute apparentés au caractère que je rencontrais constamment dans mes rêves. Ce dont parfois j'imaginais un instant connaître la signification, ou être à deux doigts de me souvenir. Achevant de me déconcerter, plusieurs bibliothécaires m'assurèrent qu'à en croire les communications précédentes et les fiches de consultation des livres en question, toutes ces notes ne pouvaient être que de moi dans mon état second, même si à l'époque comme aujourd'hui, j'ignorais trois des langues utilisées. En rassemblant les documents épars, anciens et modernes, anthropologiques et médicaux, j'obtins un mélange assez cohérent de mythes et d'hallucinations dont l'ampleur et l'étrangeté me laissèrent absolument stupéfait. Une seule chose me consola, l'antiquité des mythes. Quelle science perdue avait introduit dans ces fables primitives l'image du paysage paléozoïque ou mésozoïque ? Je ne pouvais même pas l'imaginer. Mais il y avait eu ces images. Il existait donc une base pour la formulation d'un type défini de délire. Le cas d'amnésie avait sans doute créé le modèle mythique général. Mais par la suite, la prolifération capricieuse des mythes dut agir sur les amnésiques et colorer leurs pseudo-souvenirs. J'avais lu et appris moi-même toutes les légendes primitives pendant ma perte de mémoire. Mes recherches l'avaient amplement démontré. N'était-il pas naturel alors que mes rêves et mes impressions affectives se colorent, se modèlent, d'après ce que ma mémoire avait secrètement conservé de ma métamorphose ? Quelques mythes se rattachaient de manière significative à d'autres légendes obscures du monde préhumain, en particulier ces contes hindous qui englobent de stupéfiants abîmes de temps et font partie de la tradition des théosophes actuels. Les mythes primitifs et les hallucinations modernes s'accordaient pour affirmer que l'humanité n'est qu'une, et peut-être la moindre, des races hautement civilisées et dominantes dans la longue histoire en grande partie inconnue de cette planète. Ils laissaient entendre que des êtres de forme inconcevable avaient élevé des tours jusqu'au ciel et approfondi tous les secrets de la nature avant que le premier ancêtre amphibie de l'homme ait rampé hors de la mer chaude voici 300 millions d'années. Certains venaient des étoiles, quelques-uns étaient aussi vieux que le cosmos lui-même. D'autres s'étaient rapidement développés à partir de germes terrestres, aussi éloignés des premiers germes de notre cycle de vie que ceux-ci le sont de nous-mêmes. On parlait sans hésiter de milliers de millions d'années et de rapports étroits avec d'autres galaxies et d'autres univers. À vrai dire, il n'était pas question de temps dans l'acceptation humaine du terme. Mais la plupart des récits et des impressions rapportées évoquaient une race relativement récente, d'apparence bizarre et compliquée, ne rappelant aucune forme de vie scientifiquement connue, et qui s'était éteinte 50 millions d'années à peine avant la venue de l'homme. Ce fut, disait-il, la race la plus importante de toutes, car elle seule avait conquis le secret du temps. Elle avait appris tout ce qu'on avait su et tout ce qu'on saurait sur Terre, grâce à la faculté de ses esprits les plus pénétrants de se projeter dans le passé et le futur, fût-ce à travers des abîmes de millions d'années, pour étudier les connaissances de chaque époque. Les réalisations de cette race avaient donné naissance à toutes les légendes des prophètes, y compris celle de la mythologie humaine. Dans leurs immenses bibliothèques, des volumes de textes et de gravures contenaient la totalité des annales de la Terre, histoire et description de toutes les espèces qui avaient été ou seraient, avec le détail de leurs arts, leurs actions, leur langue et leur psychologie. Forts de cette science illimitée, ceux de la grande race choisissaient dans chaque ère et chaque forme de vie ou tel concept, art et procédé qui pouvaient convenir à leur propre nature et à leur situation. La connaissance du passé obtenue par une sorte de projection de l'esprit, indépendamment des sens reconnus, était plus difficile à recueillir que celle de l'avenir. Dans ce dernier cas, la démarche était plus simple et plus concrète. Avec une assistance mécanique appropriée, un esprit se projetait en avant dans le temps, cherchant à tâtons son chemin extrasensoriel jusqu'à proximité de la période désirée. Alors, après des épreuves préliminaires, il s'emparait du meilleur représentant qu'il put trouver des formes de vie les plus évoluées de l'époque. Il pénétrait dans le cerveau de cet organisme où il installait ses propres vibrations, tandis que l'esprit dépossédé remontait en arrière jusqu'au temps de l'usurpateur, occupant le corps de ce dernier en attendant qu'un nouvel échange s'opère en sens inverse. L'esprit projeté dans le corps d'un organisme du futur se comportait alors comme un membre de la race dont il empruntait l'apparence, et apprenait le plus rapidement possible tout ce qu'on pouvait acquérir de l'ère choisie de ce qu'elle possédait d'informations et de techniques. Cependant, l'esprit dépossédé, rejeté dans le temps et le corps de l'usurpateur, était étroitement surveillé. On l'empêchait de nuire au corps qu'il occupait, et des enquêteurs spécialisés lui soutiraient tout son savoir. Il arrivait souvent qu'on l'interroge dans sa propre langue, si des recherches précédentes dans l'avenir avaient rapporté des enregistrements. Si l'esprit venait d'un corps de la grande race ne pouvait physiquement reproduire la langue, on fabriquait d'ingénieuses machines sur lesquelles la langue étrangère pouvait être jouée comme sur un instrument de musique. Ceux de la grande race étaient d'immenses cônes striés de 10 pieds de haut, avec une tête et d'autres organes fixés à des membres extensibles d'un pied d'épaisseur partant du sommet. Ils s'exprimaient en faisant claquer ou frotter d'énormes pattes ou pinces qui prolongeaient deux de leurs quatre membres, et se déplaçaient en dilatant et contractant une couche visqueuse qui recouvrait leur base de 10 pieds de large. Quand la stupeur et le ressentiment de l'esprit captif s'étaient atténués, et en admettant qu'il vint d'un corps extrêmement différent de ceux de la grande race, qu'il n'éprouvait plus d'horreur pour son insolite forme temporaire, on lui permettait d'étudier son nouveau milieu et de ressentir un émerveillement et une sagesse comparables à ceux de son remplaçant. Moyennant certaines précautions et en échange de services rendus, on le laissait parcourir le monde habité dans de gigantesques aéronefs ou sur ses gros véhicules à profil de bateau, propulsés par des moteurs atomiques, qui sillonnait les grandes routes et puisait librement dans les bibliothèques où l'on pouvait lire l'histoire passée et future de la planète. Beaucoup d'esprits captifs acceptaient ainsi mieux leur sort, car ils n'en étaient que des passionnés, et pour ces esprits-là, la révélation des mystères cachés de la Terre, chapitre clos d'inconcevable passé et de tourbillons vertigineux d'un futur qui contient des années à venir de leur propre temps, sera toujours, malgré les horreurs insondables souvent découvertes, l'expérience suprême de la vie. Quelquefois, certains pouvaient rencontrer d'autres esprits captifs, arrachés à l'avenir, échanger des idées avec des consciences qui vivaient 100, 1000 ou 1 million d'années avant ou après leur propre époque. Et tous devaient écrire dans leur langue de longs témoignages sur eux-mêmes et leurs temps respectifs, autant de documents que l'on classait dans les grandes archives centrales. On peut ajouter qu'un type particulier de captifs jouissait de privilèges beaucoup plus étendus que ceux de la majorité. C'étaient les exilés permanents moribonds, dont les corps, dans l'avenir, avaient été confisqués par des membres audacieux de la grande race, qui, confrontés à la mort, cherchaient à sauver leurs facultés mentales. Ces exilés mélancoliques n'étaient pas si nombreux qu'on aurait pu s'y attendre, car la longévité de la grande race diminuait son amour de la vie, surtout parmi ces esprits supérieurs capables de projection. Les cas de projection permanente d'esprits d'autrefois furent à l'origine de beaucoup de changements durables de personnalité signalés dans l'histoire plus récente, y compris dans celle de l'humanité. Quant au cas d'exploration ordinaire, lorsque l'esprit usurpateur avait appris de l'avenir tout ce qu'il souhaitait savoir, il construisait un appareil semblable à celui qu'il avait lancé au départ et inversait le processus de projection. Il se retrouvait dans son propre corps à son époque, tandis que l'esprit jusqu'alors captif revenait à ce corps de l'avenir auquel il appartenait normalement. Mais si l'un ou l'autre des corps était mort durant l'échange, cette restauration était impossible. En ce cas, bien sûr, l'esprit voyageur, comme celui des évadés de la mort, devait passer sa vie dans un corps étranger de l'avenir, où l'esprit captif, comme les exilés permanents moribonds, finissait ses jours à l'époque ou sous la forme de la grande race. Ce destin était moins horrible quand l'esprit captif appartenait lui aussi à la grande race, ce qui n'était pas rare. Au long des âges, elle s'était toujours vivement préoccupée de son propre avenir, mais le nombre des exilés permanents moribonds de la race était très limité, surtout à cause des sanctions terrifiantes qui punissaient le remplacement par des moribonds d'esprit à venir de la grande race. La projection permettait de prendre des mesures pour infliger ces peines aux esprits coupables de leur nouveau corps de l'avenir. Et l'on procédait parfois à un renversement forcé des échanges. Des cas complexes de remplacement ou d'exploration d'esprits déjà captifs par d'autres esprits de diverses périodes du passé avaient été constatés et soigneusement corrigés. À toutes les époques, depuis la découverte de la projection mentale, une partie infime mais bien identifiée de la population s'était composée d'esprits de la grande race des temps passés en séjour plus ou moins prolongé. Lorsqu'un esprit captif d'origine étrangère devait réintégrer son propre corps dans l'avenir, on le purgeait au moyen d'une hypnose mécanique compliquée avec tout ce qu'il avait appris à l'époque de la grande race, cela pour éviter certaines conséquences fâcheuses d'une diffusion prématurée et massive du savoir. Les rares exemples connus de transmission non contrôlée avaient causé et causent encore à des périodes déterminées de terribles désastres. C'est essentiellement à la suite des deux cas de ce genre, selon les vieux mythes, que l'humanité avait appris ce qu'elle savait de la grande race. En fait de traces matérielles et directes de ce monde distant de millions d'années, il ne restait que des pierres énormes de certaines ruines dans les sites lointains et les fonds sous-marins, ainsi que des parties du texte et des terribles manuscrits pnakotiques. Ainsi, l'esprit qui regagnait son propre temps n'y rapportait que les images les plus confuses et les plus fragmentaires de ce qu'il avait vécu depuis sa capture. On en extirpait tous les souvenirs qui pouvaient l'être, si bien que, dans la plupart des cas, il ne subsistait depuis le moment du premier échange qu'un vide ombré de rêves. Quelques esprits avaient plus de mémoire que d'autres, et le rapprochement fortuit de leurs souvenirs avait parfois apporté au temps futur des aperçus du passé interdit. Probablement à toutes les époques, des groupes du culte qui avaient vénéré secrètement certaines de ces images, le Necronomicon suggérait la présence parmi les humains d'un culte de ce genre qui, quelquefois, venait en aide aux esprits pour retraverser des durées infinies en revenant au temps de la grande race. Cependant, ceux de la grande race eux-mêmes, devenus presque omniscients, se mettaient en devoir d'établir des échanges avec les esprits des autres planètes pour explorer leur passé et leur avenir. Ils s'efforçaient aussi de sonder l'histoire et l'origine de ce globe obscur et mort depuis des éternités au fond de l'espace et dont ils tenaient leur propre héritage mental, car l'intelligence de ceux de la grande race était plus ancienne que leur enveloppe corporelle. Les habitants de ce vieux monde agonisant, instruits des ultimes secrets, avaient cherché un autre univers et une race nouvelle qui leur assurerait longue vie, et avaient envoyé en masse leurs esprits dans la race future la plus propre à les recevoir, les êtres coniques qui peuplaient notre Terre voici 1 milliard d'années. Ainsi était née la grande race, tandis que des myriades d'esprits renvoyés dans le passé étaient voués à mourir sous des formes étrangères. Plus tard, la race se retrouva face à la mort, mais elle survivrait grâce à une seconde migration de ses meilleurs esprits dans le corps d'autres créatures de l'avenir, dotées d'une plus longue existence physique. Tel était l'arrière-plan où s'entrelaçaient la légende et l'hallucination, lorsque, vers 1920, j'eus concrétisé mes recherches sous une forme cohérente. Je sentis s'apaiser un peu la tension que leur début avait accrue, Après tout, et malgré les fantasmes suscités par des émotions aveugles, la plupart de mes expériences n'étaient-elles pas aisément explicables ? Un hasard quelconque aurait pu orienter mon esprit vers des études secrètes pendant l'amnésie. Puis, j'avais lu les légendes interdites et fréquenté les membres d'anciens cultes impies, ce qui manifestement avait fourni la matière des rêves et des impressions troubles qui avaient suivi le retour de ma mémoire. Quant aux notes marginales en hiéroglyphes fantastiques et dans des langues que j'ignorais mais dont les bibliothécaires m'attribuaient la responsabilité, j'avais fort bien pu saisir quelques notions des langues dans mon état second, alors que les hiéroglyphes étaient sans doute nés de mon imagination d'après les descriptions des vieilles légendes avant de se glisser dans mes rêves. J'essayais de vérifier certains points en m'entretenant avec des maîtres de culte connus sans jamais réussir à établir l'exact enchaînement des faits. Par moments, le parallélisme de tant de cas à tant d'époques lointaines continuait à me préoccuper, comme il l'avait fait dès le début. Mais je me disais par ailleurs que cet exaltant folklore était incontestablement plus répandu autrefois que maintenant. Toutes les autres victimes de crises semblables à la mienne étaient sans doute familiarisées depuis longtemps avec les légendes que je n'avais apprises qu'en mon état second. En perdant la mémoire, elles s'étaient identifiées aux créatures de leur mythe traditionnel, les fabuleux envahisseurs qui se seraient substitués à l'esprit des hommes, s'engageant ainsi dans la recherche d'un savoir qu'elle croyait le souvenir d'un passé non humain imaginaire. Puis en retrouvant la mémoire, elles inversaient le processus associatif et se prenaient pour d'anciens esprits captifs et non pour des usurpateurs, d'où les rêves et les pseudo-souvenirs sur le modèle du mythe conventionnel. Ces explications embarrassées finirent pourtant par l'emporter sur toutes les autres dans mon esprit, en raison de la faiblesse encore plus évidente des théories opposées. Et un nombre important d'éminents psychologues et d'anthropologues rejoignirent peu à peu mon point de vue. Plus je réfléchissais, plus mon raisonnement me semblait convaincant, si bien que j'en arrivais à dresser un rempart efficace contre les visions et les impressions qui me hantaient toujours. Voyais-je la nuit des choses étranges ? Ce n'était rien que ce que j'avais entendu ou lu. Me venait-il des dégoûts, des conceptions, des pseudo-souvenirs bizarres ? C'était encore autant d'échos de mythes assimilés dans mon état second. Rien de ce que je pouvais rêver ou ressentir n'avait de véritable signification. Fort de cette philosophie, j'améliorais nettement mon équilibre nerveux, en dépit des visions, plus que des impressions abstraites, qui devenaient sans cesse plus fréquentes et d'une précision plus troublante. En 1922, me sentant capable de reprendre un travail régulier, je mis en pratique mes connaissances nouvellement acquises en acceptant à l'université un poste de maître de conférence en psychologie. Mon ancienne chaire d'économie politique avait depuis longtemps un titulaire compétent, sans compter que la pédagogie des sciences économiques avait beaucoup évolué depuis mon époque. Mon fils était alors au stade des études supérieures qui allait le mener à sa chaire actuelle, et nous travaillions beaucoup ensemble. Je continuais néanmoins de noter soigneusement les rêves incroyables qui m'assaillaient, si denses et si impressionnants. J'y trouvais l'intérêt d'un document psychologique d'une réelle valeur. Ces images fulgurantes ressemblaient toujours diablement à des souvenirs, mais je luttais contre cette impression avec un certain succès. Dans mes notes, je décrivais les fantasmes comme des choses vues, mais le reste du temps, j'écartais ces illusions arachnéennes de la nuit. Je n'y avais jamais fait allusion dans les conversations courantes. Pourtant, le bruit s'en était répandu, ainsi qu'il en va de ce genre de choses, suscitant divers commentaires sur ma santé mentale. Il est amusant de songer que ces rumeurs ne dépassaient pas le cercle des profanes, sans un seul écho chez les médecins ou les psychologues. Je parlerai peu ici de mes visions d'après 1914, puisque des récits et des comptes rendus plus détaillés sont à la disposition des chercheurs sérieux. Il est certain qu'avec le temps, les singulières inhibitions s'atténuèrent un peu, car le champ de mes visions s'élargit considérablement. Elles ne furent jamais toutefois que des fragments sans lien, et apparemment, sans claire motivation. Je le semblais acquérir progressivement dans les rêves une liberté de mouvement de plus en plus grande. Je flottais à travers d'étonnants bâtiments de pierre passant de l'un à l'autre par de gigantesques galeries souterraines qui étaient manifestement des voies de communication courantes. Je rencontrais parfois au niveau les plus bas ces larges trappes scellées autour desquelles régnait une telle aura de peur et d'interdit. Je voyais d'énormes bassins de mosaïques et des salles pleines de curieux et inexplicables ustensiles d'une variété infinie. Il y avait encore dans des cavernes colossales des mécanismes compliqués dont le dessin et l'utilité m'étaient absolument inconnus et dont le bruit ne se fit entendre qu'après plusieurs années de rêve. Je peux faire observer ici que la vue et l'ouïe sont les seuls sens que j'ai jamais utilisés dans l'univers onirique. L'horreur véritable commença en mai 1915, quand je vis pour la première fois des créatures vivantes. C'était avant que mes recherches m'aient appris avec les mythes et l'histoire des cas ce à quoi je devais m'attendre. À mesure que tombaient les barrières mentales, j'aperçus de grandes masses de vapeurs légères en différents endroits du bâtiment et dans les rues en contrebas. Elles devinrent peu à peu plus denses et distinctes, jusqu'à ce que je puisse suivre leurs monstrueux contours avec une inquiétante facilité. On eût dit d'énormes cônes iridescents, de 10 pieds de haut et autant de large à la base, faits d'une substance striée, squameuse et semi-élastique. De leur sommet partaient 4 membres cylindriques flexibles, chacun d'un pied d'épaisseur, de la même substance ridée que les cônes eux-mêmes. Ces membres se contractaient parfois jusqu'à presque disparaître, ou s'allongeaient à l'extrême, atteignant parfois quelques 10 pieds. Deux se terminaient par de grosses griffes, ou des pinces. Au bout d'un troisième se trouvaient 4 appendices rouges en forme de trompette. Le 4e portait un globe jaunâtre, irrégulier, d'environ 2 pieds de diamètre, où s'alignaient 3 grands yeux noirs, le long de la circonférence centrale. Cette tête était surmontée de 4 minces tiges grises avec des excroissances pareilles à des fleurs, tandis que de sa face intérieure pendaient 8 antennes ou tentacules verdâtres. La large base du cône central était bordée d'une matière grise, caoutchouteuse, qui par dilatation et contraction successives assurait le déplacement de l'être tout entier. Leurs actions, pourtant inoffensives, me terrifièrent plus encore que leur apparence, car on ne regarde pas impunément des êtres monstrueux faire ce dont on croyait les humains seuls capables. Ces objets-là allaient et venaient avec intelligence dans les grandes salles, transportaient les livres des rayonnages aux tables, ou vice-versa, en écrivant parfois, soigneusement et lentement, avec une baguette spéciale au bout des tentacules verdâtres de leur tête. Les grosses pinces servaient à porter les livres et à conserver, la parole consistant en une sorte de cliquetis ou de grattement. Ces objets n'étaient pas vêtus, mais ils portaient des cartables ou des sacs à dos suspendus au sommet du tronc en forme de cône. Ils tenaient généralement leur tête et leurs membres qui la supportaient au niveau du sommet du cône, bien qu'il leur arrivât souvent de les lever ou de les baisser. Les 3 autres membres principaux pendaient à l'état de repos le long du cône, réduits à 5 pieds chacun, quand ils ne servaient pas. De la vitesse à laquelle ils lisaient, écrivaient et manipulaient leurs machines, celles qui se trouvaient sur les tables paraissaient en quelque sorte reliées à la pensée, je conclus que leur intelligence était bien supérieure à celle de l'homme. Plus tard, je les vis partout, grouillant dans toutes les salles et couloirs, surveillant de monstrueuses machines dans des cryptes voûtées et lancées à toute allure sur les larges routes dans de gigantesques voitures en forme de bateaux. Je cessais de les craindre, car ils semblaient intégrés à leur milieu avec un naturel absolu. Des caractéristiques individuelles devenaient évidentes parmi eux, et certains donnaient l'impression d'être soumis à une sorte de contrainte. Ces derniers, sans présenter aucune différence physique, se distinguaient non seulement de la majorité, mais plus encore les uns des autres par leurs gestes et leurs habitudes. Ils écrivaient beaucoup, en utilisant, à en croire ma vision incertaine, une grande variété de caractères, mais jamais les hiéroglyphes curvilignes habituels. Quelques-uns, me sembla-t-il, se servaient de notre alphabet familier. Ils travaillaient pour la plupart bien plus lentement que l'ensemble des entités. Pendant tout ce temps, je ne fus en rêve qu'une conscience désincarnée au champ visuel plus étendu que la normale, flottant librement, du moins, sur les avenues ordinaires et les voies express. En août 1915, des suggestions d'existence corporelle commencèrent à me tourmenter. Je dis tourmenter car la première phase ne fut qu'un rapprochement purement abstrait, mais non moins atroce entre la répugnance déjà signalée à l'égard de mon corps et les scènes de mes visions. Un moment, je fus surtout préoccupé par les rêves d'éviter de me regarder, et je me rappelle combien je me félicitais en l'absence de miroir dans les étranges salles. J'étais très troublé de voir toujours les grandes tables, qui n'avaient pas moins de 10 pieds de haut, au niveau de leur surface et non plus bas. Puis la tentation morbide de m'examiner devint de plus en plus forte, et une nuit, je ne pus résister. D'abord, en baissant les yeux, je ne vis absolument rien. Je compris bientôt pourquoi. Ma tête se trouvait au bout d'un cou flexible d'une longueur démesurée. En contractant ce cou et en regardant plus attentivement, je distinguais la masse squameuse striée, iridescente, d'un énorme cône de 10 pieds de haut, sur 10 pieds de large à la base. C'est alors que mes hurlements éveillèrent la moitié d'Arkham, tandis que je me précipitais comme un fou hors de l'abîme du sommeil. Il me fallut des semaines, de hideuses répétitions, pour me réconcilier à demi avec ces visions de moi-même sous une forme monstrueuse. Je me déplaçais désormais physiquement dans les rêves, parmi les autres entités, lisant les terribles livres des rayonnages interminables et écrivant pendant des heures sur les hautes tables en maniant un stylet avec les tentacules verts qui pendaient de ma tête. Des fragments de ce que je lisais et écrivais subsistaient dans ma mémoire. C'étaient les annales d'autres mondes, d'autres univers et des manifestations d'une vie sans forme en dehors de tous les univers. Des récits sur les êtres singuliers qui avaient peuplé le monde dans des passés oubliés et les effroyables chroniques des intelligences grotesquement incarnées qui le peupleraient des millions d'années après la mort du dernier humain. Je découvris des chapitres de l'histoire humaine dont aucun spécialiste d'aujourd'hui ne soupçonne même l'existence. La plupart de ces textes étaient écrits en hiéroglyphes, que j'étudiais bizarrement avec des machines bourdonnantes, et qui constituaient de toute évidence une langue agglutinante, avec des systèmes de racines absolument différents de tous les langages humains. J'étudiais de la même façon d'autres ouvrages dans d'autres idiomes étranges. Il y en avait très peu dans les langues que je connaissais. De très belles illustrations insérées dans les volumes en formant aussi des collections séparées m'apportaient une aide précieuse. Et pendant tout ce temps, je rédigeais, semble-t-il, une histoire en anglais de ma propre époque. À mon réveil, je ne me rappelais que des bribes infimes et dénuées de sens des langues inconnues que mon moi avait rêvé. Mais il me restait en mémoire des phrases entières de mon livre. Avant même que mon moi éveillé n'ait étudié les cas analogues aux miens ou les anciens mythes, d'où assurément naquirent les rêves, j'appris que les entités qui m'entouraient étaient la race la plus évoluée du monde, qu'elle avait conquis le temps et envoyé des esprits en exploration dans toutes les époques. Je sus aussi que j'avais été exilé de mon temps tandis qu'un autre y occupait mon corps et que certaines de ces étranges formes abritaient des esprits pareillement capturés. Je conversais dans un curieux parler fait de cliquetis, de griffes, avec des intelligences exilées de tous les coins du système solaire. Il y avait un esprit de la planète que nous appelons Vénus, qui vivrait dans un nombre incalculable d'époques à venir, et un autre d'un satellite de Jupiter qui venait de 6 millions d'années avant notre ère. Parmi les esprits terrestres, il y en avait de la race semi-végétale, ailée, à la tête en étoile, de l'Antarctique paléogène, un du peuple reptilien de la Valusia des légendes, trois sectateurs hyperboréens de Tsatogwa, des préhumains couverts de fourrure, un des très abominables Chocho, deux des arachnides acclimatés du dernier âge de la Terre, cinq des robustes espèces de coléoptères, successeurs immédiats de l'humanité, à qui ceux de la grande race transféreraient un jour en masse leur esprit, les plus évolués face à un péril extrême, et plusieurs des différentes branches de l'humanité. Je m'entretins avec l'esprit de Yang Li, un philosophe du cruel empire de Tsan Chan, qui viendra en 5000 après Jésus-Christ, avec celui d'un général de ce peuple à grosse tête et peau brune qui occupa l'Afrique du Sud 50 000 ans avant Jésus-Christ, et celui du moine florentin du XIIe siècle nommé Bartolomeo Corsi, avec celui d'un roi de Lomar qui gouverna cette terrible terre polaire 100 000 ans avant que les Inutos jaunes et trapus ne viennent de l'Occident pour l'envahir. Je conversais avec l'esprit de Nuxot, magicien des conquérants noirs de l'an 16 000 de notre ère, avec celui d'un romain nommé Titus Sempronius Blasius, qui fut questeur au temps de Sylla, avec celui de Kefnes, égyptien de la 14e dynastie qui m'apprit le hideux secret de Nyarlathotep, et celui d'un prêtre du Moyen Empire de l'Atlantide, et celui de James Woodville, obereau de Suffolk, au temps de Cromwell, avec celui d'un astronome de la cour dans le Pérou pré-Inca, avec celui du physicien australien Neville Kingston Brown qui mourra en 2518, avec celui d'un archimage du royaume disparu de Yé dans le Pacifique, celui de Théodotite, fonctionnaire grec de Bactriane en 200 avant Jésus-Christ, avec celui d'un vieux français du temps de Louis XIII qui s'appelait Pierre-Louis Montagny, celui de Chromien, chef cimérien en l'an 15000 avant Jésus-Christ, et tant d'autres que mon cerveau ne peut retenir les épouvantables secrets et vertigineuses merveilles qu'ils m'ont révélés. Je m'éveillais chaque matin dans la fièvre, tentant parfois avec frénésie de vérifier ou de mettre en doute telle information qui relevait du domaine des connaissances humaines d'actuelles. Des faits traditionnels prenaient des aspects nouveaux, suspects, et je m'étonnais de l'imaginaire onirique qui peut inventer pour l'histoire et la science de si surprenants prolongements. Je frémissais des mystères que le passé peut receler, et tremblais des menaces que peut apporter l'avenir. Ce que suggéraient les propos des entités post-humaines sur le sort de l'humanité produit sur moi un tel effet que je préfère ne pas le rapporter ici. Après l'homme viendrait la puissante civilisation des coléoptères, dont l'élite de la grande race s'approprierait les corps quand un sort monstrueux frapperait le monde ancien. Plus tard, le cycle de la Terre étant révolu, les esprits transférés migreraient de nouveau à travers le temps et l'espace, jusqu'à une autre escale dans le corps bulbeux des entités végétales de Mercure. Mais il y aurait des races après eux, pour s'accrocher encore pathétiquement à la planète refroidie et s'y enfouir jusqu'à cœur comblé d'horreur, avant l'extinction définitive. Cependant, dans mes rêves, j'écrivais inlassablement cette histoire de mon époque que je destinais, moitié volontairement et moitié contre des promesses de facilité accrue d'études et de déplacement, aux archives centrales de la grande race. Ces archives étaient une colossale construction souterraine près du centre-ville que je finis par bien connaître pour y avoir souvent travaillé et consulté des documents. fait pour durer aussi longtemps que la race ait résisté aux plus violentes convulsions de la Terre. Ce formidable entrepôt l'emportait sur tous les autres édifices par sa structure massive et inébranlable de montagne. Les documents, écrits ou imprimés sur de grandes feuilles de matière cellulosique étonnamment résistante, étaient reliés en livres qui s'ouvraient par le haut et conservés dans des étuis individuels d'un étrange métal grisâtre, extrêmement léger, inoxydable, décoré des figures géométriques et portant le titre en hiéroglyphe curviligne de la grande race. Ces étuis étaient entreposés dans des étages de coffres rectangulaires, tels des rayonnages clos et verrouillés, faits du même métal inoxydable et fermés par des boutons aux combinaisons compliquées. Mon histoire avait sa place réservée dans les coffres au niveau le plus bas, celui des vertébrés, dans la section consacrée aux cultures de l'humanité et des races reptiliennes et à fourrure qui l'avaient immédiatement précédée dans la domination de la Terre. Mais aucun rêve ne me donna jamais un tableau complet de la vie quotidienne. Ce n'étaient que des fragments nébuleux et sans lien, et qui ne se présentaient certainement pas dans leur succession normale. Je n'ai par exemple qu'une idée très imparfaite de l'organisation de ma vie dans le monde du rêve, sinon que je devais disposer personnellement d'une grande chambre de pierre. Mes restrictions de prisonnier disparurent peu à peu, au point que certaines visions comprenaient des voyages impressionnants au-dessus des imposantes routes de la jungle, des séjours dans des villes étranges et des explorations de quelques-unes des immenses ruines noires sans fenêtres dont se détournaient ceux de la grande race avec une singulière frayeur. Il y eut aussi de longs périples sur mer à bord d'énormes navires à plusieurs ponts d'une rapidité incroyable, et des survols de régions sauvages dans des dirigeables fermés en forme de projectiles soulevés et mus par propulsion électrique. Par-delà le chaud et vaste océan s'élevaient d'autres cités de la grande race, et sur un continent lointain, je vis les villages primitifs des créatures ailées au museau noir qui deviendraient une souche dominante quand la grande race aurait envoyé dans le futur ses esprits les plus évolués pour échapper à l'horreur rampante. L'absence de relief et la verdure surabondante caractérisaient toujours le paysage. Des collines basses et rares donnaient généralement des signes d'activité volcanique. Sur les animaux que je vis, je pouvais écrire des volumes. Tous étaient sauvages car la civilisation mécanique de la grande race avait depuis longtemps supprimé les animaux domestiques et la nourriture était entièrement d'origine végétale ou synthétique. Des reptiles maladroits de grande taille pataugeaient dans les vapeurs des marais fumants, voletaient dans l'air lourd ou crachaient de l'eau sur les mers et sur les lacs. Parmi eux, je crus vaguement reconnaître des prototypes réduits et archaïques de nombreuses espèces. Dinosaures, ptérodactyles, ichthyosaures, labyrinthodontes, plésiosaures et autres que la paléontologie nous a rendus familiers. Quant aux oiseaux et aux mammifères, je ne pus en découvrir aucun. Le sol et les eaux stagnantes grouillaient de serpents, de lézards et de crocodiles, tandis que les insectes bourdonnaient sans cesse parmi la végétation luxuriante. Et sur la mer, au loin, des monstres inconnus et inobservés soufflaient de formidables colonnes d'écume dans le ciel vaporeux. On m'emmena une fois au fond de l'océan, dans un gigantesque sous-marin muni de projecteurs, et j'aperçus des monstres vivants d'une taille impressionnante. Je vis aussi les ruines d'incroyables villes englouties et une profusion de crinoïdes, de brachiopodes, de coraux et vies ichthyoïdes qui pullulaient partout. Mes visions m'apprirent très peu de choses sur la physiologie, la psychologie, les usages, l'histoire détaillée de la grande race. Et beaucoup des éléments dispersés que je rapporte ici furent glanés dans mon étude des vieilles légendes et des autres cas plutôt que dans ma vie onirique. À la longue, en effet, mes lectures et mes recherches rejoignirent puis dépassèrent les rêves à certains moments, si bien que tel ou tel fragment de rêve se trouvait expliqué d'avance et constituait des vérifications de ce que j'avais appris. Cette observation consolante affermit ma conviction que des lectures et des recherches du même ordre effectuées par mon moi second avaient fourni la trame de tout ce tissu de pseudo-souvenirs. L'époque de mes rêves remontait apparemment à un peu moins de 150 millions d'années, lorsque l'âge paléozoïque faisait place au mésozoïque. Les corps occupés par la grande race ne correspondaient à aucun stade d'évolution, survivant ou scientifiquement connu, de l'évolution terrestre. Mais c'était un type organique bizarre, très homogène et hautement spécialisé, aussi proche du végétal que de l'animal. Le mécanisme de la cellule chez eux était d'un genre exceptionnel, excluant presque la fatigue et supprimant le besoin de sommeil. La nourriture, absorbée par les appendices rouges en forme de trompette fixée à l'un des principaux membres flexibles, était toujours semi-liquide et à bien des égards différait entièrement des aliments de tous les animaux existants. Ces êtres ne possédaient que deux des sens que nous connaissons, la vue et l'ouïe, cette dernière ayant pour organe les excroissances en forme de fleurs situées sur la tête au bout de tiges grises. Il y avait beaucoup d'autres sens incompréhensibles et de toute façon peu utilisables par les esprits étrangers captifs qui habitaient leur corps. Leurs trois yeux étaient placés de manière à assurer un champ visuel plus étendu que la normale. Leur sang était une espèce d'ichor vert foncé, très épais. Ils n'avaient pas de sexe, mais ne se reproduisaient au moyen de germes ou spores groupés à leur base, qui ne pouvaient se développer que sous l'eau. On utilisait de grands bassins peu profonds pour la culture de leurs jeunes, qu'on élevait toutefois en nombre très limité en raison de la longévité des individus, l'âge moyen étant de 4 ou 5 000 ans. Ceux qui se révélaient manifestement défectueux étaient éliminés aussitôt qu'on observait leur imperfection. En l'absence du toucher ou de la souffrance physique, la maladie et l'approche de la mort se reconnaissaient à des symptômes purement visuels. Les morts étaient incinérés en grande cérémonie. De temps à autre, comme on l'a déjà dit, un esprit exceptionnel échappait à la mort en se projetant dans l'avenir, mais de tels cas étaient rares. Quand il s'en produisait un, l'esprit exilé de l'avenir était traité avec la plus grande bienveillance jusqu'à la désintégration de son insolite résidence. La grande race semblait former une seule nation ou union, aux liens assez lâches, ayant en commun les principales institutions mais comportant quatre groupes distincts. Le système économique et politique de chaque groupe était une sorte de socialisme à tendance fasciste. Les ressources essentielles étaient réparties rationnellement et le pouvoir confié à une petite commission gouvernementale élue par le suffrage de tous ceux qui étaient capables de réussir certains tests culturels et psychologiques. Il n'y avait pas d'organisation familiale à proprement parler, même si l'on reconnaissait certains liens entre les personnes de même origine, et si les jeunes étaient généralement élevés par leurs parents. Les rapprochements les plus marqués avec les comportements et les institutions humains s'observaient naturellement d'une part dans ces domaines où il s'agissait de données très abstraites, d'autre part quand s'imposaient les impulsions élémentaires et communes à toute forme de vie organique. Quelques ressemblances venaient aussi d'un choix délibéré de ceux de la grande race qui, explorant l'avenir, en imitaient ce qui leur plaisait. L'industrie, extrêmement mécanisée, demandait peu de temps à chaque citoyen et toutes sortes d'activités intellectuelles et esthétiques occupaient ses longs loisirs. Les sciences avaient atteint un niveau incroyablement élevé et l'art jouait un rôle essentiel dans la vie. Pourtant, à l'époque de mes rêves, son sommet et son apogée étaient passés. La technologie trouvait un stimulant considérable dans la lutte incessante pour survivre et préserver la structure matérielle des grandes villes, malgré les prodigieuses convulsions géologiques de ces temps primitifs. Le crime était étonnamment rare et le maintien de l'ordre assuré avec une remarquable efficacité. Les peines qui allaient de la perte de privilèges et la prison jusqu'à la mort ou à un déchirement émotionnel profond n'étaient jamais infligées sans un examen minutieux des motifs du coupable. Les guerres, civiles pour la plupart depuis les derniers millénaires, mais menées parfois contre des envahisseurs reptiliens ou octopodes, ou encore contre les anciens ailés à la tête en étoile, concentrés dans l'Antarctique, étaient peu fréquentes, mais terriblement dévastatrices. Une armée formidable équipée d'engins ressemblant à des appareils photo et produisant des phénomènes électriques foudroyants se tenait prête pour les actions rarement évoquées mais évidemment liées à la crainte incessante des antiques ruines noires, sans fenêtres, et des grandes trappes scellées, des étages souterrains. Cette terreur des ruines basaltiques et des trappes n'était généralement l'objet que de suggestions confuses, ou tout au plus de vagues et furtifs murmures. Absence significative, on ne trouvait dans les livres des rayonnages d'usage courant d'aucune précision à son propos. C'était, chez ceux de la grande race, le seul sujet rigoureusement tabou. Associé, semblait-il, à d'effroyables luttes passées autant que périls futurs qui obligeraient un jour la race à envoyer en masse ses esprits les plus pénétrants dans les temps à venir. Si décevant et fragmentaire que soient les autres sujets présentés par les rêves et les légendes, celui-ci était plus obscur encore et déconcertant. Les vieux mythes confus l'évitaient complètement, ou peut-être à dessein avait-on retranché toute allusion. Et dans mes rêves, comme dans ceux des autres, les traces en étaient singulièrement rares. Les membres de la grande race n'en parlaient jamais de propos délibérés, et tout ce qu'on a pu glaner vient de quelques esprits captifs particulièrement observateurs. Selon ces bribes d'informations, l'objet de cette peur était une horrible race ancienne d'entités tout à fait extraterrestres, à demi-polypes, qui, venant à travers l'espace d'univers infiniment lointain, avait soumis la Terre et trois autres planètes du système solaire voici environ 600 millions d'années. Elles n'étaient matérielles qu'en partie, suivant notre conception de la matière, et leur type de conscience ainsi que leurs moyens de perception étaient radicalement différents de ceux des organismes terrestres. Leur sens, par exemple, ne comportait pas celui de la vue, leur monde mental se composant d'un étrange réseau d'impressions non visuelles. Elles étaient néanmoins suffisamment matérielles pour utiliser des instruments de matière normale dans les régions cosmiques où elles en trouvaient, et il leur fallait un logement, encore qu'il fût d'un genre très particulier. Bien que leurs sens puissent pénétrer les obstacles matériels, Leur substance en était incapable et certaines formes d'énergie électrique pouvaient les détruire entièrement. Elles avaient la faculté de se déplacer dans l'air malgré l'absence d'ailes ou de quelque autre organe visible de lévitation. Leur esprit était d'une telle nature que ceux de la grande race n'avaient pu faire aucun échange avec eux. Lorsque ces créatures étaient arrivées sur la Terre, elles avaient construit de puissantes cités basaltiques de tours sans fenêtres et exercé d'affreux ravages sur les êtres vivants qu'elles avaient rencontrés. C'est alors que les esprits de la grande race s'étaient élancés à travers le vide depuis cet obscur monde transgalactique connu sous le nom de Yit dans les inquiétants et contestables fragments de poterie d'Eldown. Les nouveaux venus, grâce aux engins qu'ils avaient créés, n'eurent aucune peine à vaincre les rapaces entités et à les refouler dans ces cavernes au cœur de la Terre qu'elles avaient déjà reliées à leur demeure et commencé à habiter. Puis, scellant les issues, ils les avaient abandonnés à leur destin, occupant par la suite la plupart de leurs grandes cités, dont ils conservèrent certains édifices importants pour des motifs qui relevaient plus de la superstition que de l'indifférence, l'audace ou le zèle scientifique et historique. Mais à mesure que s'écoulaient les âges, des symptômes imprécis et sinistres révélaient que les entités anciennes croissaient en force et en nombre dans les entrailles de la Terre. Des irruptions sporadiques d'un caractère particulièrement hideux se produisirent dans certaines petites villes lointaines de la grande race, et dans quelques-unes des vieilles cités abandonnées qu'elles n'avaient pas peuplées. Autant de lieux où l'on n'avait pas convenablement scellé et gardé les issues menant aux abîmes intérieurs. Après cela, on avait redoublé de précautions et muré définitivement la plupart des ouvertures. Plusieurs furent conservées avec leurs trappes scellées dans un but stratégique pour combattre les vieilles entités si jamais elles surgissaient à des endroits inattendus. Les incursions de ces monstrueux anciens avaient dû être d'une horreur indescriptible, car elles avaient à jamais coloré la psychologie de la grande race. L'impression tenace de cette horreur était telle que l'aspect même des créatures était passé sous silence. Je ne pus à aucun moment entrevoir clairement à quoi elles ressemblaient. Il était question en termes voilés d'une stupéfiante plasticité et de la faculté de se rendre passagèrement invisible, tandis que d'autres échos faisaient allusion à leur contrôle devant violent à des fins militaires. On semblait leur associer aussi des sifflements bizarres et des colossales traces de pas comportant les empreintes circulaires de 5 orteils. De toute évidence, le sort fatal que redoutait si désespérément la grande race, ce sort qui lancerait un jour des billions d'esprits remarquables à travers l'abîme du temps jusqu'à des corps inconnus dans un avenir plus sûr, était lié à une dernière attaque victorieuse des êtres anciens. Des projections mentales dans les âges futurs prédisaient clairement une telle horreur, et la grande race avait décidé qu'aucun de ceux qui pouvaient fuir n'aurait à l'affronter. Ce serait un raid de pure vengeance, bien plus qu'un effort pour reconquérir le monde de la surface. Cela, on le savait par l'histoire future de la planète, car les projections mentales ne montraient dans les allées et venues des races de l'avenir aucune intervention des monstrueuses entités. Peut-être celle-ci avait-elle finalement préféré les abîmes de la Terre à sa surface changeante, ravagée par les tempêtes, puisque la lumière ne comptait pas pour elle. Peut-être aussi s'affaiblissait-elle lentement au fil des âges. On savait, en effet, qu'elle serait toute morte à l'époque de la race post-humaine des coléoptères, dont les esprits en fuite seraient les locataires. En attendant, ceux de la grande race continuaient à monter la garde, leurs armes puissantes toujours prêtes, malgré l'interdit horrifié qui bannissait le sujet des propos courants et des documents accessibles. Et l'ombre d'une peur sans nom planait perpétuellement autour des trappes scellées et des vieilles tours noires et aveugles. Fin de la première partie.